plateformes, comme on les appelle, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, de se frotter les mains durant cette crise sanitaire. Et comme vous l'avez dit en introduction, c'est Facebook qui a eu, uniquement dans son premier semestre 2019, son chiffre d'affaires qui a augmenté de 34%. Facebook et Microsoft ont connu une croissance de 14% à peu près et on note 6% pour la croissance d'Apple. Ça donne bien entendu une idée du poids économique que peut représenter la question du digital ou du numérique dans le monde. Cette crise sanitaire a mis au grand jour la dépendance de nos entreprises ou alors l'obligation pour les entreprises de travailler avec le numérique, avec Internet. Ces activités n'étaient pas sans impact du point de vue de l'Afrique. Je note pendant cette crise sanitaire la résilience dont a fait face plusieurs pays d'Afrique, qui était due pas par un coup de miracle, mais plutôt par des gros projets d'infrastructure.
Si vous me permettez, on peut revenir plus en détail sur l'Afrique. Je voulais juste avoir une vue d'ensemble dans un premier temps. Sherna, le boom de l'économie numérique est réel, hein, comme l'a dit donc Didier. Mais est-ce que les pays, de façon générale, ou les sociétés, les compagnies, étaient préparés à dépendre de façon aussi rapide du numérique, même si on sait que dans beaucoup de secteurs, c'est déjà le cas?
Alors, effectivement, le Covid-19, comme on l'appelle, hein, a eu un rôle, en fait, de catalyseur. Ça a rajouté une célérité très, très importante à ce qu'on a aujourd'hui de la transformation digitale. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des entreprises avaient dans leur schéma directeur une volonté de basculer vers le numérique. Certains l'ont fait de manière parcellaire, d'autres de manière un peu plus aboutie. Mais effectivement, le coronavirus a un peu accéléré les choses. Et pour reprendre un petit peu les propos de M. Didier, c'est là où on voit qu'en fait, toute l'importance, ou plutôt toute la dimension des acteurs comme le GAFA et le fait de mettre à disposition des plateformes comme le font beaucoup d'acteurs et comme le font notamment 7 des 8 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière. Donc effectivement, ça a accéléré des choses. Les entreprises ne s'y attendaient pas, sauf celles qui avaient travaillé sur des plans de continuité d'activité.
Basile, même dans les pays développés, on constate un accès inégal aux technologies. Est-ce que la pandémie de Covid-19 va imposer un changement plus rapide que prévu dans la stratégie des gouvernements et même des compagnies à rendre accessible la technologie digitale?
En observant l'humanité dans son progrès, on a deux manières d'aborder le progrès, soit par l'évolution, donc aller vers une situation supérieure par étapes, soit par la révolution, c'est-à-dire une rapide évolution. Et si vous voyez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, on a vu apparaître des avions à réaction, ce qui n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale. On a vu apparaître la télévision en couleur, on a vu apparaître beaucoup de projets de progrès qui sont dus à ce phénomène que je peux appeler révolution, c'est-à-dire une évolution forcée, à marche forcée. C'est ce phénomène aujourd'hui, de manière parallèle, que nous voyons avec le Covid. Le Covid est venu suivant tout le monde, y compris même les GAFA dont nous parlons. Et ce signe d'affaires qu'on remarque au niveau des GAFA et de l'explosion de ce signe d'affaires est dû au fait que confiné, les gens ont commencé d'abord à vouloir se détendre, à vouloir se connecter. Aucun gouvernement n'avait prévu l'arrivée du Covid. Même les sociétés comme les GAFA n'avaient pas prévu cela. Et donc, dans disons, l'inexpérience vécue par les gouvernements, autant ici en Occident que chez nous, surtout en Afrique, tout le monde est au dépourvu. Aujourd'hui, on est obligé d'envisager comment sortir de cette situation, et nous partons tous des zéros. Il faut que nos pays comprennent au niveau des pays en développement. L'inégalité que l'on constate au niveau des pays en développement est bien cette surprise. Les pays en développement devraient éviter d'attendre que les pays développés trouvent une solution pour pouvoir la copier. J'ai dit que tout le monde part à zéro. c'est bien que on soit tous surpris de cette manière-là, et nous devons repenser la manière de pouvoir équilibrer l'accès à l'Internet pour tout le monde, y compris dans les pays en
développement. D'accord. Alors, Didier, c'est un peu ce que dit Basile, les tragédies forcent l'humanité à s'adapter et à créer de nouvelles technologies. Et est-ce qu'on peut dire que ceux qui hésitaient un peu à épouser le digital, que ce soit pour des raisons de confidentialité ou de sécurité, aujourd'hui n'ont plus le choix? Et si oui, comment les rassurer que c'est OK d'épouser cette technologie, parce que c'est un peu la nouvelle réalité?
Alors, ce qu'il faut noter, effectivement, les nouvelles technologies sont là. Il va falloir vivre avec. La nature humaine, de manière générale, a peur de l'inconnu. Du coup, on retrouve quand on regarde l'histoire, hein, quand Internet est arrivé, du moins Internet tel que comme nous le connaissons aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient hésitants d'aller sur des nouvelles technologies, cette technologie-là. Lorsque le cloud est arrivé, on a aussi connu des personnes qui étaient hésitantes. Pourtant, aujourd'hui, le cloud, c'est ce qui nous rend le plus service et on est même en train d'évoluer vers des services encore plus. Donc, j'ai envie de dire, pour répondre à la question, les personnes qui étaient hésitantes, le Covid-19 l'a mis au grand jour et on va devoir composer avec, on va devoir aller vers les services du numérique, vers le digital et cela inexorablement. Par contre, comment est-ce qu'on peut les rassurer? Le premier moyen, la première solution que j'ai, c'est une de mes publications. En avril 2020, j'ai publié un livre blanc sur les règles d'hygiène de base pour les entreprises et les particuliers en termes de sécurité numérique ou sécurité informatique. Donc ce livre est disponible en téléchargement gratuit, il est imagé et il reprend les notions de base, des notions très simples que nous pouvons appliquer, que nous soyons une entreprise ou alors que nous soyons des particuliers. À côté de cela, nous avons également des éditeurs, et ça c'est vraiment ce qu'il faudrait garder à l'esprit, les éditeurs de solutions aujourd'hui ont progressé dans les solutions qu'ils proposent et ils proposent déjà énormément de très bonnes choses pour rassurer, pour sécuriser les données qu'ils collectent pour le compte d'une entreprise ou même pour le compte d'un particulier. Mais si je peux donner un conseil quand on veut aller vers le numérique, vers la sécurité, c'est de consulter les experts, c'est de consulter des personnes qui sont on va dire au cœur de ces activités-là, et en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information, comme vous l'avez dit en introduction, parce que je suis également membre de deux associations. La première association, c'est APAC, c'est l'association panafricaine pour la cybersécurité, et l'autre association, c'est le CESIA, c'est l'association, le club des experts de la sécurité informatique en Afrique, qui est un club qui réunit des directeurs des systèmes d'information, des directeurs de la sécurité des systèmes d'information, et des responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ces personnes-là peuvent nous accompagner quand on a envie d'être rassuré, quand on a envie de faire des choix stratégiques.
Oui, Shahna, vous êtes aussi spécialiste de la sécurité de l'information dans les systèmes informatiques. Comment rassurer les populations, surtout en Afrique, même si on sait qu'il y a des risques, hein? Qu'aujourd'hui, si on veut progresser, on est obligé de poser un peu le digital.
Tout à fait. Je pense que la principale source d'inquiétude, hein, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, c'est la complexité qu'il y a à gérer une double crise. On est déjà assujetti à une crise sanitaire et une crise cyber également très difficile à appréhender. On va voir combien cela est complexe, notamment quand il y a des ransomware ou des attaques de ce type qui se produisent. Effectivement, l'expertise est disponible. Je pense qu'on peut le voir déjà à travers ce plateau. Didier et moi intervenons pour des grands comptes pour adresser des problématiques cybersécurité. Nous intervenons aussi en parallèle sur des associations africaines, histoire d'aider à structurer un peu mieux les choses. En revanche, pour mettre un peu plus de vernis là-dessus, il va falloir travailler de concert entre pays africains pour décliner les directives qui vont en fait être applicables au niveau des différents pays. C'est surtout ce qui pourra garantir la pérennité des mesures.
D'accord. Avant d'aller à Basile, qui je sais travaille un peu sur ça, je voulais quand même te demander, Germain, la société américaine de consultance McKinsey & Company a récemment suggéré dans un rapport que la pandémie de COVID-19 est une opportunité pour la transformation digitale en Afrique, même si ce n'est pas la seule étude qu'on a, ou en tout cas la... comment est-ce qu'on peut arriver à cette transformation digitale quand on sait quand même que les infrastructures ne sont pas toujours là en Afrique?
Effectivement, il y a une question d'opportunité là-dessus. Je me rappelle que lors du précédent G7, il y a émané un rapport qui signifiait ô combien l'investissement à consentir d'un point de vue numérique était crucial pour l'Afrique. Aujourd'hui, en termes de positionnement, si je prends l'exemple des plateformes mises à disposition, l'Afrique n'occupe qu'un pour cent du marché finalement. Un des principaux freins est le fait qu'un habitant sur deux habite à 2 kilomètres du bitume.
C'est une grosse opportunité pour vous qui êtes dans le secteur de développer, en tout cas de contribuer à cela en Afrique, n'est-ce pas?
Effectivement, partout où on a eu des mouvements intéressants de développement, ça a été initié par des fils entre guillemets du pays. Donc, je pense qu'on a de la matière grise, on a de la ressource sur laquelle le continent peut effectivement s'appuyer afin de pouvoir décliner ces différentes choses. Après, ouais. Cela doit se penser avec des états et des directives, mais effectivement, la main-d'œuvre est là, l'opportunité est là, on doit juste y aller.
D'accord. Alors, Basile, comment faire pour que le digital ne soit pas une affaire des élites africaines seulement?
Déjà, la première solution, c'est de pouvoir demander aux opérateurs traditionnels de basculer vers les produits plutôt Internet. Aujourd'hui, si vous regardez les opérateurs traditionnels de la place, ils ont été installés autour des produits voix, mais pas autour des produits Internet. Même si on voit les cellulaires offrir aujourd'hui ce qu'ils appellent les data n'a été pris en compte par les cellulaires qu'à partir du 3G, 3G. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont une capacité de débit à offrir aux clients, et ils se sont dit, mais c'est possible donc de leur permettre d'avoir accès à des serveurs qui donnent le data. Et ce n'est pas leur corps de métier au niveau des opérateurs secondaires. C'est un métier secondaire qu'ils ont pris en charge en cours de route. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des opérateurs spécialisés dans l'accès à l'Internet. Et votre question est bienvenue, Richard, parce que je voulais profiter de cette question pour faire partager les fruits de ce que j'appelle ici la prospective. À partir de juillet 2021, l'année prochaine, tout le paradigme des télécommunications sera mis à plat. Et je le dis, ce n'est pas pour effrayer les opérateurs. Mais tout opérateur qui n'aura pas pris en compte ce que je vais dire maintenant sera obligé de mettre la clé sous la porte. Et à partir de juillet 2021, le choc qui arrive, le tsunami qui arrive dans ce secteur, va être aussi comme le Covid dans le social d'aujourd'hui. À partir de juillet 2021, SpaceX lance et complète son réseau de Starlink. Ce sont des microsatellites qui sont en orbite extrêmement basse et qui vont former une toile d'araignée autour de la planète Terre. Avec ces microsatellites, chacun peut disposer de sa toute petite antenne et avoir en réception pratiquement 1 gigabit. Et le taux de latence, c'est-à-dire le temps que même signal pour aller au satellite et revenir, est pratiquement divisé par 10. Alors, vous imaginez que si vous êtes dans la campagne la plus reculée, puisque ces satellites couvrent la planète entière, vous pouvez donc dans la forêt, disons, de l'Amazonie, et disposer de votre antenne et être connecté à l'Internet. À ce moment, les prix tombent. On n'a plus à demander est-ce que c'est plus cher pour les élites et plus cher pour la population, moins cher pour les élites. Chacun doit disposer de l'Internet à 10 prix.
Il faut se préparer alors. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je dois juste dire que nous avons des réactions sur la page Facebook de VOA Afrique et je vais juste lire celle de Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui écrit « Les entreprises de communication, de transfert de fonds via le numérique prennent de l'ampleur, de même que les activités agricoles en ligne. C'est le cas de l'opération des familles vertes à Djolou au Gabon. Le PIB va mieux grâce au boom numérique. Cependant, l'insuffisance de l'énergie électrique, surtout en Afrique, risque de freiner le développement du numérique. » Voilà donc un avis qui brosse un peu beaucoup d'aspects du débat qu'on est en train d'avoir ici. Merci beaucoup, Alphonse. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités, Didier Simba, responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein du groupe bancaire BPCE à Paris, toujours dans la capitale française. Nous avons Chernar Medjouf, responsable adjoint de la sécurité des systèmes d'information à Randstad, et puis Basile Nyon, ici à Washington. Basile Nyon, vous êtes le président de BCCA Network and Technologies. Donc Didier, je parlais tantôt de Amazon. Comment faire pour développer davantage le commerce électronique en Afrique alors que par exemple, les pays n'ont pas souvent un bon système d'adressage, même si on sait qu'il existe des sociétés comme Jumia?
Alors, je dis effectivement, par adressage, système d'adressage, on entend un numéro de rue, le nom d'une rue, le code postal et peut-être même le domicile et le numéro d'appartement, ainsi de suite. Quand on est réaliste, on se rend compte qu'effectivement, il y a plusieurs pays d'Afrique qui n'ont pas forcément déployé ce dispositif-là.
Mais à bien contourner, n'est-ce pas?
Comment?
Il y a moyen de le contourner pour quand même permettre aux gens de bien profiter du numérique, du commerce
électronique. Effectivement, et là je voulais en venir parce que j'ai vu des magnifiques solutions, une dont je ne me souviens plus exactement le nom, mais qui permet, avec notre smartphone, aujourd'hui il est capable d'être géolocalisé au mètre près, au centimètre près, j'ai même envie de dire, dans certaines conditions, et ça ce n'est pas dépendant d'un système d'adressage de nos rues, c'est lié à notre smartphone et au satellite qui est au-dessus de notre tête. Donc les solutions de e-commerce sont encore possibles dans notre dispositif ou alors dans nos pays, et nous avons bien une longueur d'avance aujourd'hui puisque le taux de pénétration Internet en Afrique est très élevé, le taux de la téléphonie mobile et même du smartphone qui représente 90% de la population aujourd'hui est doté d'un smartphone. Donc il est bien possible de pouvoir développer des solutions de e-commerce en Afrique.
Alors Chernar, si le commerce électronique se développe en Afrique, c'est une très bonne chose, mais ne risque-t-il pas aussi de mettre en difficulté ces millions de personnes qui sont dans l'informel? Est-ce qu'on ne doit pas les préparer déjà à ce qui va arriver, que ça va arriver, qu'on le veuille ou pas, en les formant un peu dans ces nouvelles technologies?
Tout à fait, c'est un mouvement de fond. Je pense que la transformation induira de manière indirecte l'adoption de ces technologies. Ça arrive à petite dose. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, on a le groupe Orange qui déploie une sorte de banque à l'aide du SSD, c'est-à-dire qu'avec Gaze, suivi de trois lettres, puis on est en capacité de, d'acheter un certain nombre de services. Cela est accessible à la plupart des gens dotés d'au moins un téléphone. Et donc, dans ce sens, ils commencent à se familiariser au fil de l'eau avec ce genre de technologie. Et vu la fertilisation croisée qui existe actuellement et la couverture de Internet, qui finalement, on est en capacité de suivre ce qui se fait dans les pays occidentaux en direct, cela donne déjà un avant-goût du commerce électronique de manière un peu plus prononcée aux populations africaines. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que la transition se fera de manière tout à fait lisse et naturelle.
Parce que ces transactions, par exemple, les transactions financières existent déjà avec certaines, disons, certains services qui existent avec les services de téléphonie, n'est-ce pas? Vous parliez d'Orange, mais à d'autres compagnies aussi.
Tout à fait. Non seulement les transactions électroniques existent, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le processus bout à bout existe, il est en place. Autant il y a la dimension numérique que la dimension logistique très très difficile à intégrer. Il y a des systèmes locaux comme des systèmes de livraison à base de moto et de vélo qui marchent très très bien, quitte à le renforcer en mettant à disposition des plateformes un peu plus abouties qui mettent en musique en fait l'écosystème entre le vendeur, le livreur et le client.
Alors Basile, il y a toujours cette question du coût qui se pose. L'accès à Internet est toujours considéré cher, même si les prix ont beaucoup baissé. Vous parliez tantôt de SpaceX, mais la question des satellites, c'est aussi permettre aux pays africains de disposer de leurs satellites, même si on en a quelques pays qui ont leurs satellites, mais est-ce que c'est pas vraiment l'option finalement? Plus de satellites africains.
Nous, l'Afrique, j'aimerais, si vous me permettez, de venir un tout petit peu à la première question que vous aviez posée.
Allez-y.
Et vous dire que l'insuffisance qu'on a remarquée en Afrique pour l'indexation des livres, nous nous y attaquons déjà à travers notre ingénieur, M. Thibault Lengoumou, qui a déjà géocodé Yaoundé et Douala, et qui est en train de géocoder Abidjan. Parce que c'est vraiment la base avant d'arriver au service public. Il faut que nos villes soient géocodées et nous avons trouvé la manière de géocoder la ville. Et nous avons développé des applications qui permettent aujourd'hui de faire ce que j'appelle une bourse agricole. Donc les gens pourront, de n'importe quel village, commander même, disons, des produits agricoles pour les livrer de manière très ponctuelle. De revenir à votre question, vous savez, vous tombez sur quelqu'un, effectivement, qui a permis de lancer le satellite RASCOM en Afrique. Nous avions discuté du lancement de ce satellite RASCOM à Genève et au niveau des radiocommunications, on nous avait donné une position orbitale pour toute l'Afrique. C'est la position orbitale du Mali. C'est cette position aujourd'hui qu'occupe le satellite RASCOM. Malheureusement, ce satellite ne fonctionne pas. Donc, les autres pays qui le lancent de manière indépendante aujourd'hui, en tant que télécom, moi, je suis un peu ahuri parce que c'est comme viser la pointe d'une aiguille dans le désert avec un satellite. C'est pratiquement inutile. Et je disais que la solution que vous proposez, c'est celle que j'ai avancée tout à l'heure. On est obligé d'embarquer dans les trains de SpaceX. SpaceX lance des trains de satellites, plus de 1300 satellites ici dès 2021. Ils ont déjà lancé sa coupe, l'Amérique, le Nord, des États-Unis et le Canada. Ces satellites permettent un accès direct à l'Internet. Aujourd'hui, nous avons un accès horizontal à l'Internet. C'est-à-dire que vous tirez des fibres optiques qui restent jusqu'à la liaison, jusqu'à la fibre optique marine pour aller sur les serveurs. Mais la prochaine fois, chaque personne pourra tirer directement dans le ciel pour avoir accès à l'Internet. À partir de ce moment, les tarifs baissent. Je vous en donne juste une idée avant que SpaceX ne donne les prix définitifs. La petite antenne que vous pouvez prendre pour pouvoir vous connecter à l'Internet est de 100 dollars. Votre abonnement est de 300 dollars, pardon. Votre abonnement mensuel est d'environ 100 dollars pour 1 gigabit. Et pour, il n'y a pas de débit, il n'y a pas de data à vous facturer. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, les prix sont complètement tombés et ça devient démocratique.
D'accord, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le et toute l'équipe technique. À très